revue Trafic, une revue de cinéma. Nous retrouvons Jean-Claude Biel et Patrice Rollet.
Bon, c'est une revue qui paraît tous les 3 mois, qui est une revue de cinéma, mais de plein d'autres choses qui recoupent le cinéma, qui nourrissent le cinéma ou qui remettent en question le cinéma qui est en train de changer depuis pas mal de temps, qui change d'ailleurs toujours. C'est ce qui fait que ça reste le cinéma. Et c'est une revue où on essaye en principe de publier des textes qui sont des points de vue personnels sur des films, sur des cinéastes, sur des problèmes de cinéma, sur des points d'histoire de cinéma. Disons qu'il y a... On souhaite que l'écriture soit provoquée par un désir de, à la fois d'écrire et de dire des choses sur le cinéma, mais à titre le plus personnel possible. C'est-à-dire que, on a envie que les gens se donnent d'eux-mêmes dans l'écriture et qu'ils ne se contentent pas de donner des points de vue soit savants, soit pseudo-objectifs. Bon, même s'il arrive qu'on publie des textes qui relèvent plus de points de vue, qui relèvent parfois de points de vue savants ou de points de vue objectifs, malgré tout, l'idée de la revue, c'est de que ce soit le plus personnel possible à travers l'écriture. Et disons que quand on reçoit ou qu'on demande des textes sur des cinéastes ou sur des films, d'une certaine manière, c'est le texte lui-même qui fait foi, qui donne la preuve que le désir de la personne par rapport à ses films ou ses cinéastes est bien réel, et c'est que ça doit passer dans le texte. Voilà. Quitte à ce que, par exemple, on publie des textes sur des films qu'on n'aime pas beaucoup, les uns ou les autres, parce que bon, nous sommes quatre, il y a Raymond Bellour, Sylvie Pierre, Patrice Rollet qui est là à côté de moi, qu'on va entendre tout à l'heure, et moi, Jean-Claude Biet, il y a des films que les uns ou les autres, nous n'aimons pas particulièrement ou spécialement, mais si le texte fait la preuve en tant que texte qu'il y a eu un vrai rapport entre la personne qui a écrit et le film, eh bien, voilà, c'est comme une sorte de preuve qui est donnée qu'il faut passer le texte.
En fait, Trafic, c'est une affaire d'alchimie.
Voilà, c'est une affaire d'alchimie. Et alors, contrairement à, par exemple, ce qu'avaient été les cahiers du cinéma à une époque, fait par des cinéastes qui prenaient des options très particulières, qui faisaient des groupes et des intergroupes, etc., ou des sous-groupes. Ici, nous sommes quatre individus. Voilà, chacun avec son histoire, parce que nous n'avons plus 20 ans ou 30 ans. Chacun a son histoire, chacun a assimilé le cinéma à sa manière, et donc on arrive avec chacun une histoire personnelle et des goûts et des dégoûts, voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais on fait la revue avec ça. Disons qu'il n'y a pas de ligne, Trafic, c'est des, disons, nos quatre forces s'additionnent, mais en même temps chaque force tire de son côté dans une direction, et c'est ce tiraillement permanent dans des directions qui ne sont pas faites pour s'harmoniser. Il n'y a pas de raison de s'harmoniser. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses harmonieuses dans la vie, faut dire, aujourd'hui. Donc voilà, c'est la vie de cette revue, c'est l'écoute de directions incompatibles, mais c'est toujours les textes qui font, du moins dans l'idéal, ce sont les textes qui font foi d'un mouvement, quoi.
Alors là, il y a un numéro avec des textes assez différents. Il y a quand même un corps de texte qui se dégage autour de Godard, on pourra peut-être y revenir. C'est le fruit du hasard, ou bien comment ça se fait, par exemple, qu'un numéro comme celui-ci, c'est-à-dire le numéro 18 de Trafic, se retrouve en fait avec un corpus de textes autour de Godard à un moment donné, dans la revue, et puis d'autres textes sur lesquels on va revenir.
Je pense que si, effectivement, il y a un ensemble de textes autour de Godard, bon, c'est à la fois un hasard, et puis en même temps, ce n'en est pas un. Hein. C'est un hasard, peut-être, dans la rencontre des auteurs ou des textes proprement dit. Et puis, en même temps, je crois que, quand même, nous, on a eu un désir assez fort, actuellement, de peut-être remettre l'accent sur un certain Godard politique. Hein. Publier un ensemble de textes à la fois de Godard et sur Godard n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus original aujourd'hui, mais je crois que la dimension politique de cet ensemble, puisqu'il y a un texte sur la chinoise de Rancière, il y a un texte de Comolis sur les enfants jouent à la Russie, il y a un texte donc sur Allemagne 9-0, bon, c'était, je crois, aussi un parti pris assumé et voulu. Plus bon, une intervention de Godard qu'il a prononcée lorsqu'il a eu le prix Adorno, où il précise à la fois son rapport à l'Allemagne et au cinéma, quelque chose qu'à mon sens il n'avait pas fait au moment d'Allemagne 9-0, et qui se fait, disons, un petit peu après coup, et je crois qu'on est très content d'avoir publié ça. Pour revenir peut-être à ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça me paraît très important sur l'idée que ce sont au fond les textes qui font foi. Dans le projet de départ de Trafic tel que l'avait conçu donc Serge, l'idée que c'était Serge Danet, oui, il faut le dire, c'était donc une revue de cinéma au sens de cinéma au sens d'un génitif subjectif, c'est-à-dire une revue qui était irriguée par le cinéma, une revue paradoxalement sans image, mais où en quelque sorte le cinéma s'écrivait. Alors bon, on peut juger de la réussite ou non du projet, de la revue elle-même, de sa continuation, mais je crois que c'est quelque chose qui, en fait, à mon sens, continue de fonctionner. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est partagé sur certains films, et que en même temps, lorsque il passe comme ça dans l'écriture, dans le texte lui-même, de la singularité, on se dit qu'il y avait bien du cinéma dans le film en question. Et c'est ce qui fait qu'à la fois, je crois qu'on a parfois des visions différentes les uns des autres, moi je trouve aussi souvent assez complémentaires quand même, et en même temps, on n'a pas tant que ça de désaccord au final sur les textes qu'on publie, en général.
Donc dans la diversité, une certaine homogénéité quand même.
On espère aussi quand même que ça chante à plusieurs voix et que c'est pas trop homogène.
Alors, le dernier numéro, là, on va y revenir peut-être plus en détail. D'ailleurs, il y a un texte de Jean-Claude Biette. Qu'est-ce qu'un cinéaste ? Question complexe. On pourrait peut-être commencer par celui-là. D'ailleurs, c'est le premier texte. J'avoue que j'ai pas lu toute la revue, mais en tout cas, celui-là, je l'ai lu. Alors, on pourrait peut-être revenir dessus. Qu'est-ce qu'un cinéaste ? Qu'est-ce qu'un metteur en scène ? Et qu'est-ce qu'un auteur, Jean-Claude Biette ?
Déjà.
Et qu'un réalisateur.
D'abord, c'est une question que je me suis posée un peu de manière circonstancielle, puisque j'étais en train d'essayer d'écrire mon texte, parce que j'écris assez régulièrement, pas tous les numéros, mais assez régulièrement. Et Patrice m'a dit, au cours d'une conversation téléphonique, ben voilà, parce que j'étais en train de lui expliquer pour moi qu'est-ce que c'était un cinéaste. Il m'a dit, ben voilà, tu devrais écrire là-dessus et appeler ton texte « Qu'est-ce qu'un cinéaste ?» Alors j'ai fait, parce que je trouvais que l'idée d'une commande extérieure à moi-même, c'était bien, je n'aurais peut-être pas osé aborder ce problème et appeler un texte comme ça. Donc ça m'a facilité les choses. Mais cela dit, c'est un texte que j'ai mis longtemps à écrire et qui était difficile, parce que je pense que cette question « qu'est-ce qu'un cinéaste ?», elle n'était sûrement pas pertinente il y a 10 ou 20 ans, et que pour moi, elle l'est devenue. Elle l'est devenue. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un, Bon, si on dit qu'est-ce qu'un cinéaste, et je pose, j'essaye d'établir quelles sont les différences entre les mots qu'on emploie dans la langue française pour dire quelqu'un qui fait des films. Donc il y a réalisateur, il y a metteur en scène, cinéaste et auteur. Bon, auteur maintenant c'est devenu un terme extrêmement courant et pratiquement tout le monde veut être auteur, tout le monde se revendique comme auteur. Parce qu'il y a eu la politique des auteurs. Je pense qu'il n'y a que Jean-Marie Poiré qui ne veut pas être auteur, mais sinon tous les autres veulent être auteurs. Donc je me suis dit que... Bon, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que chaque mot évoquait comme réalité dans le tournage d'un film. Et qu'est-ce que ça évoquait aussi, et socialement, et historiquement. Parce que je pense qu'il y a, ça c'est quelque chose que j'ai gardé en vue quand j'écrivais ce texte, c'était le caractère historique. Parce que, en fait, cinéaste est un mot qui, je crois, remonte, je pense, aux années 20. Ou quelque chose. C'est un mot de Louis Deluc, oui. Réalisateur est le mot basique, je dirais, passe-partout, qui égalise tout le monde. Tout le monde est réalisateur à partir du moment où il fait un film. Metteur en scène, c'est un mot un peu plus valorisant, qui est emprunté au théâtre. Et auteur, eh bien, auteur, c'est quelque chose qui est apparu au cours des années, à cause précisément de ce que les cahiers du cinéma, avec la célèbre, enfin, pas célèbre au temps où ils l'ont formulé, la politique des auteurs, elle est devenue célèbre après, parce que les gens de la Nouvelle Vague ont fait des films qui sont devenus célèbres, et qu'il y a eu une légende qui s'est formée petit à petit autour de la notion de politique des auteurs. Puisque moi-même, après, en publiant mes textes au cahier, donné comme titre « Poétique des auteurs », parce que je trouvais qu'après la politique des auteurs, après un côté prise de pouvoir par les auteurs, eh bien, il fallait songer à la poétique. Bon. Et je pense qu'il y a des périodes dans le cinéma, il faut tenir compte de l'évolution historique. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour ne pas faire de la mauvaise métaphysique sur le cinéma, voilà. Ou de la mythologie. Et la notion d'auteur, elle s'est beaucoup transformée, et je pense que pour y essayer d'y voir clair un peu, c'est aussi pour pouvoir distinguer le travail pour pouvoir distinguer la nature des films, les uns avec les autres. Parce que maintenant que tout le monde peut voir les films à la télé ou acheter en cassette, il y a une sorte de nivellement et de disparition progressive, quelquefois très organisée, très machiavélique, des implications historiques des films les uns par rapport aux autres, de comment le cinéma se transforme, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer de distinguer le plus possible les films les uns par rapport aux autres, ne pas faire d'amalgame entre les circonstances dans lesquelles sont nés des films. Que, bon, on connaît les films, on peut les voir, on peut les voir, les revoir, etc. Mais on a besoin aussi de savoir dans quel contexte ils sont nés, de savoir tout ce qui peut éclairer les films est nécessaire à la compréhension des films. Il y a pas un, je ne pense pas qu'il y ait un art comme ça, hors du temps, hors de... Je pense qu'il faut la connaissance des éléments qui sont autour des films, qui ont accompagné leur naissance, qui ont accompagné leur perception au moment où ils sont sortis et tout ça, ça fait partie de l'être même des films.
Tu abordes les films comme des êtres uniques dans leur solitude. J'aimerais qu'on revienne sur ces deux notions-là, c'est-à-dire l'histoire non pas une histoire intérieure à l'histoire de l'art elle-même. Bon, ça, tu viens de le dire assez clairement, me semble-t-il. On ne filme pas avant Auschwitz comme on filme après Auschwitz. Et puis la solitude des films, comme la solitude des êtres, malgré l'histoire. J'aimerais que tu m'en parles, de cette solitude des films.
Oui, d'ailleurs, j'étais content de voir un soir au Cercle de Minuit... Raoul Ruiz a dit une chose formidable, il a dit « Il faut considérer les films comme des personnes et regarder chaque film comme une personne singulière. » Et ça, je trouve que c'est un principe, je dirais, éthique par rapport au cinéma qui est absolument indispensable aujourd'hui. Les films, c'est pas des marchandises, ou s'ils le sont parfois, reste à savoir à établir quelle est la position du type qui a fait le film et s'il a vécu la fabrication de son film comme une marchandise ou comme un peu d'une... Enfin, ce que j'ai dit dans mon texte, il y a les œuvres et il y a les produits. Je pense qu'on doit pouvoir déceler dans un film quelle est la part du produit et quelle est la part de l'œuvre. Et il ne faut jamais oublier le rapport des deux. Il y a des films qui sont très très peu des produits, qui sont presque entièrement des œuvres, mais il ne faut pas perdre de vue ça. Et...
Ça, c'est rare aujourd'hui face à la quantité de produits, justement.
Oui, c'est assez rare, mais c'est un peu notre rôle aussi, quand on aime le cinéma, d'essayer de déceler ce qui est des produits bidons et vides et creux. Et alors, aujourd'hui, c'est très difficile, parce que comme tout le monde connaît le cinéma, les réalisateurs les plus cyniques utilisent toute une rhétorique cinématographique de familiarité avec les films, même avec les grands classiques, pour essayer de faire passer des sous-produits culturels. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ersatz culturels dans les films qui passent pour des films extrêmement sérieux et qui...
On peut se demander ce qu'il y a de spécifiquement cinématographique dedans, ce qui fait qu'on revient à la question, qu'est-ce qu'un cinéaste ?
Voilà, quand même, il y a le fait que, c'est vrai, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'actuellement, l'aura cinématographique fait aussi partie du produit, et que, dans la distinction œuvre-produit dont tu parlais, les choses ne sont plus du tout claires, parce que les œuvres, j'ai l'impression, sont de plus en plus secrètes, de moins en moins m'as-tu vu. Leur teneur en cinéma n'est pas du tout proportionnelle au cinéma affiché, quoi, produit par l'œuvre.
C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus... ce qu'on appelle le cinéma art et essai au sens vaste, ça n'est jamais qu'un cinéma commercial amélioré, c'est-à-dire reconverti au goût moderne d'affichage de référence. C'est-à-dire c'est une catégorie, je dirais, socialement supérieure. Alors évidemment, on entre dans le camp de l'ennemi et on se part des habits de l'art et de la culture, et c'est comme ça que beaucoup de gens prennent de l'art et essai pour de la vraie culture, alors que...
Prennent peut-être ça pour de l'art, mais à mon avis c'est peut-être de la culture, c'est-à-dire l'industrie culturelle et pas de l'art. Parce qu'il faut peut-être ramener le cinéma, parce que tu parlais de perte d'aura, mais là on se retrouve peut-être dans une problématique à la Benjamin en fait. C'est que je crois que le cinéma, tu disais tout à l'heure Jean-Claude, beaucoup de gens connaissent le cinéma. Moi je crois que beaucoup de gens connaissent le cinéma maintenant à travers la télévision. Et je pense avec les distorsions de l'effet télévisuel sur les films, et je ne parle pas d'œuvres cinématographiques bien sûr, mais sur les films en tant que produits. Ce qui fait qu'effectivement, à mon avis, c'est le cinéma qui a disparu là-dedans, parce que c'est de la télé qui couvre peut-être les œuvres d'art cinématographique et les font disparaître. Alors vous allez, vous, à la quête des œuvres, me semble-t-il, donc d'une affirmation, d'un trafic du cinéma en tant qu'art, en tout cas. Je me trompe ou pas ?
Oui, oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que comme beaucoup de films ont des signes, manifestent des signes extérieurs de cinéphilie, la, disons que le, la recherche du cinéma implique d'aller au-delà des signes de cinéphilie. Bon, ça, c'est bon, ça, c'est une sorte de béaba aujourd'hui. Mais donc, ce qu'on...
C'est pour ça que tu parles de l'être, parce que, à mon avis, la cinéphilie, c'est un savoir, une culture, mais ce n'est pas l'être, l'essence, au sens ontologique presque. Parce que tu parles bien de la solitude des êtres.
Oui, parce que la solitude des êtres, quand on fait un film, n'importe qui fait un film, disons, est tout seul, responsable. Oui, mais un être de cinéma, mais... À partir de cette impression de solitude, il y en a qui se précipitent dans les bras de la rhétorique sociale, je dirais. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a, les gens ne veulent, les cinéastes ne veulent, enfin, les gens qui font des films, exactement, pour rester général, n'ont pas envie d'être seuls, et donc ils appellent au secours toute la rhétorique sociale d'assimilation cinéphilique des films. Alors qu'en fait, faire un film, il faut accepter d'être seul jusqu'au bout. Voilà, c'est le prix. Bon, quand je dis cinéaste, bon, c'est parce que j'essaye d'être dialectique. Je pense qu'il y a de grands films qui ne sont pas des films de cinéastes, parce que je... Bon, même quand j'ai parlé de mon texte au cours d'une réunion à Trafic, mes camarades ont eu peur que je valorise le terme de cinéaste, que je fasse une espèce de hiérarchie nobiliaire où le cinéaste... Bon, c'est vrai qu'il y a un peu ça, mais quand même, le cinéma a besoin de... pour exister comme art, a besoin de différents niveaux de création. Et je pense qu'il y a des films plus qu'estimables qui ne sont pas le fait de cinéastes, qui sont le fait de très bons metteurs en scène, ou de très bons réalisateurs, ou d'auteurs. Bon, j'explique ce que ça implique, la notion d'auteur, mais je pense que il y a besoin de tous ces films-là, parce qu'il y a besoin que les gens soient différents. Voilà, j'en reviens à mon idée de singularité. Il faut que les gens soient différents, il faut que les films... Et de même que les gens sont différents, les films sont différents. Et le tout, c'est d'essayer de comprendre comment chacun fonctionne. Voilà. Donc j'en reviens toujours à un terme de... Les individus... Ben oui, les individus dans l'histoire.
Il y avait déjà ça dans Poétique des auteurs, à mon avis, tu es tout à fait cohérent dans une logique avec ce que tu fais. Le choix des textes dans Poétique des auteurs, c'est la continuité, me semble-t-il.
Et alors, quelqu'un m'a fait remarquer une chose que j'avais, ce que j'écris là sur la distinction entre cinéaste, auteur, metteur en scène, quelqu'un m'a fait remarquer que je l'avais déjà exposé d'une manière comme ça, pas. Dans un texte que j'avais écrit sur Bergman. Ce film qui s'appelle Après la répétition, voilà. Et dans un texte que j'avais écrit sur Après la répétition, je parlais de Bergman en disant qu'il était cinéaste, auteur et metteur en scène. Donc c'est quelque chose qui traînait dans un coin de ma réflexion depuis un certain temps. Que j'ai ranimé là, parce que maintenant il me paraît nécessaire. Parce que je me souviens d'une phrase que Godard avait dite il y a quelques années, c'était quelque chose qui le préoccupait à ce moment-là, dans les années 80. Il disait quand je regarde beaucoup de films, je ne trouve jamais dans ces films le désir de cinéma. Je me demande pourquoi les gens font ces films. Voilà.
Non, je voulais simplement. Peut-être rappeler, Jean-Claude propose une définition quand même très très limpide de ce que c'est qu'un cinéaste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est à la fois, dit-il, un point de vue sur le monde et un point de vue sur la réalité. Et c'est vrai que je pense que c'est une... un point de vue sur le monde, un point de vue sur le cinéma, oui, c'est ce que je voulais dire. Et je crois que c'est une distinction extrêmement utile, parce que c'est vrai que au niveau de la politique des auteurs, telle qu'elle est, enfin, telle qu'elle a diffusé, ce qu'elle est devenue, c'est devenu uniquement un point de vue sur le cinéma. Et je crois que la définition du cinéaste par Jean-Claude est à la fois une définition qui est à la fois très minimale, parce que le terme cinéaste est un terme très neutre, comme ça, qui n'emporte pas comme ça à ses semelles apparemment beaucoup de terre. Et en même temps, l'angle d'attaque enfin, du texte de Jean-Claude, je crois, est l'air de rien tout à fait neuf, et en tout cas permet de faire passer des lignes de partage très fortes dans le cinéma actuel. De ce point de vue-là, je crois que c'est à la fois un texte historique, comme le rappelait Jean-Claude tout à l'heure, et qu'en même temps, c'est réellement un texte critique important par rapport à ce qu'on voit au cinéma aujourd'hui. Et la deuxième chose qui, moi, me paraissait en tout cas intéressante dans le projet de Jean-Claude, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la solitude des films, et moi aussi, ça m'avait frappé comme beaucoup de gens. Il y avait un texte comme ça, une chronique de Jean-Claude dans l'Écaillé qui s'appelait « Solitude du spectateur », et cette solitude du spectateur était essentiellement dans une solitude par rapport à la solitude du film. Hein. Et qu'en même temps, on sent très très bien que dans la façon dont Jean-Claude a de pratiquer la critique, c'est-à-dire, comme il disait, dans une espèce de respect absolu de la singularité de chaque film, pris un par un, toujours un par un, malgré tout, bien sûr, il y a des critères d'évaluation, il y a des films qui tiennent mieux que d'autres, et c'est vrai que le problème n'est pas de savoir si un film de cinéaste est meilleur qu'un film de metteur en scène. Le problème, c'est qu'un film de cinéaste, en général, risque d'avoir des effets comme ça plus prolongés que souvent un film de metteur en scène ou un film de réalisateur, un bon film de réalisateur, ce qui existe aussi.